on sait peu de choses sur le plan scientifique, hein. On commence à accumuler de la donnée. Et en parallèle, au cours de ces dernières années, il y a une polémique autour de cette sensibilité non cœliaque. Certains scientifiques se sont posé la question de savoir si cette sensibilité existait vraiment ou si elle n'était pas plutôt née d'une hystérie autour du gluten.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. On les appelle les produits sans. Les sans lactose, sans viande, sans OGM, sans gluten, sans sel, sans additifs, sans arômes. Tous affublés de cette préposition qui exprime l'absence ou l'exclusion, sans, S-A-N-S, ils sont le symbole d'une nouvelle manière de consommer, plus alerte, plus consciente des risques pour la santé. En creux, ils illustrent également les excès de l'industrie agroalimentaire. Car s'il y a aujourd'hui une demande pour des produits sans lactose, sans viande, sans OGM et sans gluten, c'est bien qu'il y a eu aussi des excès de lactose, de viande, d'OGM et de gluten. Et dans cet océan de produits sans, une gamme en particulier s'est imposée comme nouveau segment commercial, au carrefour de la mode alimentaire, de la vraie maladie, du régime et de l'autodiagnostic, le sans gluten. Ces dernières années, le sans gluten est passé d'une offre confidentielle à un vaste créneau, désormais si présent qu'on le retrouve même décliné par des grandes marques de distributeurs, en rayon dans les grandes et moyennes surfaces. Alors qu'il y a 10 ans, je ne comptais dans mon entourage qu'une seule personne intolérante au gluten, j'ai aujourd'hui 2 ou 3 amis qui ont arrêté d'en manger pour se sentir moins ballonné, un copain qui évite le soir parce qu'il a l'impression que ça le fait gonfler, et d'autres proches qui prennent volontiers la version sans gluten quand celle-ci se présente à eux, dans le choix d'un pain à la boulangerie ou d'une pâtisserie. Le gluten est-il devenu l'ennemi public numéro 1 ? Sommes-nous tous devenus intolérants ou en tout cas sensibles au gluten ? Pour Clémentine Oliver, la question n'a pas pris le temps d'être posée. C'est à 37 ans que cette ancienne psychologue clinicienne en milieu hospitalier découvre sa maladie.
Alors, en fait, je souffrais depuis 10 ans. J'étais au stade 2/3 de la douleur. J'avais des gros problèmes féminins. On voulait tout m'enlever, ce que je ne voulais pas. Et j'avais des gros problèmes digestifs. J'ai passé mon temps aux toilettes. Et je ne savais pas ce que j'avais. Donc, ça s'est vraiment aggravé. J'avais 37 ans. Soit je passais sur le billard, on m'enlevait tout, je ne voulais pas. J'ai dernier recours. Mon ostéo me dit, va voir une naturopathe. Cette naturopathe découvre que j'ai un problème avec le gluten. Elle me dit, vous ne digérez plus rien. Il faut supprimer le lactose, le sucre et le gluten. Je ne savais même pas ce que voulait dire gluten. J'ai dit, quoi ? Prenez 8 antalgiques par jour. J'arrête ça en 3 jours, plus d'antalgiques, plus de douleurs. En une semaine, plus de douleur, sans médicaments. Je retrouve la forme, je fais tout, comme elle me dit pendant 3 mois. Je réintroduis le lait, aucun problème au bout de 3 mois. Je réintroduis le sucre, aucun problème. Le gluten, rac ! Je cours aux toilettes, je suis malade et tout. Je me dis, c'est dans ma tête. J'étais psy. Pendant 15 ans, j'ai été psy. Clinicienne, installée à la Pitié-Salpêtrière, titulaire, temps plein. Tout fait, le parcours. Donc, dans ma place, quoi. Et je mange un jour un repas sans gluten, normalement, et je me retrouve le bide gonflé, aux toilettes, collé, tout ça, bim, je me rends compte qu'il y avait du gluten caché dans un des ingrédients. Et là, je sais que c'est pas dans ma tête. Et j'ai su que la moindre trace de gluten me rendait malade. Moi, je suis très intolérante au gluten.
Mais d'abord, qu'est-ce que le gluten exactement ? Gluten, est-on sûr de bien savoir ce que veulent dire ces 6 lettres que l'on croise désormais si souvent dans notre quotidien ? En quoi cette substance est-elle capable du meilleur, en faisant délicieusement gonfler nos pains, comme du pire, autrement dit, nous alourdir. Marie-Françoise Sanson, chercheuse en biochimie alimentaire, nous explique.
Alors, le gluten, il faut savoir qu'il n'existe pas en tant que tel dans la nature. La meilleure façon de voir qu'est-ce que c'est un gluten, c'est de faire une pâte avec de la farine. Une farine issue d'une céréale panifiable, le blé, le seigle et dans une moindre mesure l'orge. On prend cette farine, on la mélange à de l'eau et on fait une pâte genre pâte à pizza ou pâte à sel. Et cette pâte-là, on va la travailler, la malaxer sous un filet d'eau. On va au départ voir l'eau se charger en amidon et au fur et à mesure, on va obtenir une masse visqueuse et élastique d'une couleur beige un peu foncée. Et c'est ça le gluten. C'est plus de 80% de protéines avec des restes de lipides et d'amidon. Ce gluten, en fait, il est issu de protéines que l'on trouve dans le grain de la céréale. Pour faire plus simple, je parlerai que du blé par la suite, parce que en fait c'est celui que l'on consomme le plus dans le pain, dans les gâteaux, dans les pâtes. Donc dans le grain de blé, vous avez les deux familles de protéines qui sont constitutives du gluten, qui sont chez le blé les gliadines et les gluténines. Ces protéines portent un autre nom chez le seigle et chez l'orge. Ces protéines sont aussi des protéines dites de réserve parce qu'elles vont servir de source d'azote pour le développement de la jeune plantule après la germination. L'amidon sert de source de carbone, les protéines de réserve servent de source d'azote. Donc pour avoir un gluten, il faut un grain broyé ou une farine, apporter de l'eau et de l'énergie mécanique pour faire une pâte. Et c'est à ce moment-là qu'il se met en place.
Ce fameux gluten, on le trouve partout dans les produits de consommation de la vie courante. Il se loge même là où on ne l'attend pas.
Les amidonneries vont produire de l'amidon dont on va servir pour les industries alimentaires comme épaississants, pour l'industrie cosmétique, pour l'industrie pharmaceutique. Donc on va avoir de l'amidon, mais l'un des sous-produits de la production d'amidon est le gluten, puisque là aussi, on va prendre une farine, on va ajouter de l'eau, il va se former un gluten, alors assez dilué, et on va séparer, comme on le fait manuellement, quand on fait la démonstration par exemple à des étudiants, on va séparer l'amidon d'un côté et ce gluten de l'autre côté. Donc on le valorise vers les industries agroalimentaires entre autres, puisque les protéines ont des propriétés moussantes, structurantes, donc on les utilise aussi pour ça. Donc c'est une source de protéines, l'industrie de l'amidon.
Cette omniprésence du gluten pose problème pour les personnes qui ne le supportent pas. Pour comprendre ce qu'il se passe dans leur organisme, j'ai demandé à Marie-Françoise Sanson de nous l'expliquer. Elle le rappelle, il n'y a pas une seule manière de ne pas supporter le gluten. Plusieurs pathologies existent entre la maladie cœliaque, dont souffre Clémentine que vous avez entendu tout à l'heure, et la sensibilité ou l'hypersensibilité au blé. Dans un cas, c'est l'arrêt strict du gluten qui est préconisé. Dans l'autre, des degrés plus ou moins importants de gluten peuvent encore être tolérés.
Alors, il faut savoir de quoi on parle. Parce que les pathologies liées au gluten, il y en a plusieurs. Pour beaucoup, l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque. 1% de la population environ est touchée par cette maladie, qui est déclenchée par des fragments de gliadine et de gluténine quand ils arrivent dans le petit intestin, l'intestin grêle. Et ces fragments de gliadine et de gluténine, chez des personnes qui sont prédisposées génétiquement, va induire une réaction immunitaire, une réaction auto-immune, qui va faire que par une série de mécanismes, notre propre organisme va avoir des réactions adverses. Chez le malade cœliaque, au niveau des intestins, ça va se traduire par une destruction des villosités de la paroi intestinale, ce qui va entraîner des troubles de l'absorption des nutriments. Les gens vont souffrir déjà de douleurs intestinales, mais ça va se traduire, notamment chez les enfants, par des retards de croissance, par des problèmes liés notamment à une mauvaise absorption des minéraux et des vitamines. Le blé induit aussi des problèmes allergiques. On a notamment le cas de l'asthme du boulanger. Et plus récemment, ils l'ont appelé aussi intolérance au gluten, mais on a préféré l'appeler cette nouvelle pathologie qui a été décrite dans les années 70, sensibilité non cœliaque au gluten ou au blé, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit le gluten qui la provoque. Les gens qui se disent sensibles ou hypersensibles au blé ou au gluten rapportent des symptômes qui sont parfois proches de la maladie cœliaque, à savoir de l'inconfort digestif, des problèmes de diarrhée, mais certains rapportent aussi des problèmes de constipation, ballonnement et des symptômes non digestifs comme des douleurs musculaires, de la fatigue, de l'anxiété. Le spectre des symptômes est assez vaste en fait.
Cette dernière décennie, on observe qu'un nombre croissant de personnes cherchent à éviter le gluten par inconfort intestinal.
Alors, au cours de ces dernières années, la sensibilité non cœliaque a été rapportée dans les années 70. Elle a été un petit peu oubliée. Et c'est que très récemment, en fait, que la communauté scientifique s'est penchée sur ce problème-là. Et si la maladie cœliaque, c'est que 1% ou 1,5% de la population, pour la sensibilité non cœliaque, elle varie selon les pays, mais en moyenne, on a constaté que environ 7% de la population déclare souffrir de ce type de problème. Et certains pays, ça peut monter jusqu'à 15%.
Dans un contexte médiatique où l'on pointe davantage du doigt le gluten, mais aussi dans une situation marketing où l'on trouve toujours plus de produits sans gluten dans les rayons, comment savoir ce qui relève de l'effet de mode ou de la vraie sensation d'inconfort, voire de la pathologie, chez celles et ceux qui ont adopté le sans gluten ? Le mal vient-il nécessairement du gluten ?
C'est compliqué tout ça, parce que déjà la sensibilité non cœliaque, je vous ai dit que le terme gluten, la communauté scientifique l'évite parce qu'on n'est pas sûr que ce soit le gluten. Deux autres types de composés ont aussi été ciblés. On a ciblé les FODMAPs, qui sont des sucres fermentés cibles, que l'on retrouve notamment dans les céréales, mais dans d'autres aliments, qui sont aussi responsables notamment du syndrome du côlon irritable. Et on a ciblé une autre famille de protéines du blé qui sont les inhibiteurs trypsiques et amylasiques. C'est des toutes petites protéines du blé qui sont impliquées dans les mécanismes de défense de la plante et que notamment qui ont un rôle dans les allergies au blé. Et ces petites protéines ont aussi été pointées du doigt dans le cadre de la sensibilité non cœliaque. On sait peu de choses sur le plan scientifique, on commence à accumuler de la donnée. Et en parallèle, au cours de ces dernières années, il y a une polémique autour de cette sensibilité non cœliaque. Certains scientifiques se sont posé la question de savoir si cette sensibilité existait vraiment ou si elle était pas plutôt né d'une hystérie autour du gluten qui a émergé au cours des dernières décennies. On a sans arrêt, depuis maintenant peut-être 20-30 ans, une diabolisation de produits alimentaires. À un moment, c'est les produits laitiers, puis c'est les graisses, puis c'est les sucres et le gluten. On a des vedettes du sport ou du ciné qui l'ont pointé du doigt, qui ont déclaré qu'ils l'avaient arrêté, qui se sentaient mieux depuis. Donc, il y a pas mal de gens qui sont allés dans ce sens-là, mais on s'aperçoit au cours d'études que certaines personnes qui évitaient le gluten à un moment sont capables d'en remanger, de définir quelle est la dose acceptable pour eux. Donc c'est en fait très compliqué cette problématique.
Toujours est-il qu'il est difficile aujourd'hui de savoir si l'arrêt du gluten est réellement ce qui permet aux uns et aux autres d'aller mieux. Pour en être certain, il faudrait pouvoir être sûr d'isoler la bonne variable à observer. À propos des mangeurs et mangeuses qui arrêtent le gluten et se sentent mieux, Marie-Françoise Sanson précise.
Oui, il y a des gens, en fait, quand ils rentrent dans un régime, parfois ils font aussi attention à plus de choses et ils associent peut-être le sport, d'autres règles d'hygiène de vie. Et à ce moment-là, c'est assez difficile de savoir d'où vient le bénéfice. Est-ce que c'est vraiment le régime ? Est-ce que c'est les autres règles que l'on a choisi d'appliquer en même temps que ce régime-là ? Pour revenir à l'éviction du gluten dans l'alimentation, en 2017, c'était à peu près 3% des Français qui l'avaient éliminé de leur alimentation. Aux États-Unis ou en Australie, c'est près de 20% de la population. Et effectivement, cette éviction a aussi été permise par le fait qu'il est plus facile de trouver des produits sans gluten dans les rayons des grandes surfaces à un prix beaucoup plus abordable que par le passé.
La chercheuse spécialisée en céréales et plus précisément en blé dur le rappelle. Lorsqu'on souffre de la maladie cœliaque, cette maladie auto-immune qui se traduit par des lésions de l'intestin grêle provoquant un trouble de l'absorption des aliments, seul un régime alimentaire strict sans gluten permettra d'éviter la manifestation des symptômes. Dans un article de The Conversation intitulé « Gluten, mythe ou réalité, à la recherche des personnes hypersensibles », elle explique que l'hypersensibilité constitue un cas de figure différent de la maladie non cœliaque. En 2012, des membres du BioCivam 11, une association de producteurs bio de l'Aude, ont conduit une enquête sur cette pathologie. Ils avaient été sollicités en ce sens par des paysans boulangers et pastiers dont les clients déclaraient pouvoir manger les produits vendus par ces professionnels alors même qu'ils présentaient d'habitude des symptômes d'hypersensibilité au gluten. Ces personnes ont donc été interrogées sur les produits à base de blé qu'elles pouvaient ingérer sans problème. L'enquête montre qu'il s'agit fréquemment de pâtes et pains au levain, confectionnés à partir de semoule ou farine issue de blé de variété locale, cultivés en agriculture biologique, écrasés sur meule de pierre et transformés sans additifs. L'une des hypothèses émises par Marie-Françoise Sanson et ses collègues de l'INRAE est donc que le levain, qui contient des protéases actives, permet sans doute une fragmentation du gluten qui peut faciliter sa digestion au niveau du pancréas par les protéases pancréatiques. Le problème ne serait donc pas tant la transformation des blés au cours de l'histoire, comme on l'entend souvent, que le mode de panification entre les procédés industriels et les procédés artisanaux. Car en l'état, la littérature scientifique ne permet pas d'affirmer que les blés anciens sont plus digestes que les blés modernes. Il y a en tout cas débat. Certains chercheurs rappellent qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le but était d'augmenter les rendements afin de pouvoir nourrir le plus grand nombre et éviter ainsi les famines. Les sélectionneurs auraient alors favorisé les petits blés, une variété qui permettait d'augmenter la quantité de blé récolté. Mais le documentaire « Gluten, l'ennemi public » réalisé par Patricia Marani et diffusé sur Arte l'année dernière estime que cette sélection des blés, un moment charnière qui influence aujourd'hui encore la géopolitique du blé, s'explique par le fait que les variétés naines s'accordaient mieux avec les engrais à base de nitrates et de phosphates, soit des matières à explosifs dont il fallait écouler les stocks accumulés durant la Seconde Guerre mondiale. Toujours selon le documentaire, ces petits blés présentent un gluten plus élastique et que l'on tolérait moins bien. Or, encore une fois, aucune étude clinique à ce jour n'a permis de réellement comparer la digestibilité des blés anciens versus celle des blés modernes. Dans ce contexte, un certain nombre de chercheurs émettent l'hypothèse que le problème n'est pas la modification des blés au cours de l'histoire, une pratique vieille comme le monde, mais plutôt la transformation du gluten dans les produits céréaliers. Ainsi, selon Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire à l'INRA, l'augmentation de la sensibilité au gluten chez les consommateurs est liée au fait qu'un nombre croissant de produits ultra transformés ont recours à du gluten comme texturant ajouté aux farines des pains industriels. C'est cette surexposition au gluten dans les produits transformés qui nous rendrait donc plus sensibles. Le mal vient donc davantage de l'industrie agroalimentaire que des champs de blé.
La sélection variétale a toujours existé de façon empirique. C'est comme ça que le blé, depuis des millions d'années, subsiste. Les agriculteurs, depuis son apparition, n'ont pas cessé de l'améliorer. Les variétés qui ne leur allaient pas, qui donnaient pas assez de grains, qui souffraient trop de maladies, ils ont éliminé naturellement. Et la sélection variétale n'a fait que continuer ce processus de sélection. Le blé, il reste le même. C'est jamais que de l'amidon, des protéines et d'autres composés.
En matière d'alimentation sans gluten, le pain est une véritable problématique, peut-être plus saillante encore que pour les autres aliments. Chez les personnes qui découvrent leur maladie cœliaque, renoncer au pain peut être un vrai déchirement. Le pain devient alors le symbole d'une frustration ou d'une quête sans fin, celle du goût du vrai pain versus celui sans gluten voué à n'être que du simili-pain. Clémentine Oliver s'en souvient avec émotion.
Vous preniez un pain que vous achetiez dans des magasins que je ne citerai pas, et vous le lâchiez sur votre pied, vous cassez votre pied. C'était une brique, c'était l'enfer. J'ai pris tous les bouquins qui existaient sans gluten, j'ai essayé tout, ça ne m'a pas plu du tout, tout est parti à la poubelle. Du coup, j'ai fait des essais. Et puis, un jour, je mange chez mon père tous les dimanches quand il est là, on mange en famille, on est heureux, et il me fait bien manger sans gluten. Je dis, papa, j'ai une idée comme ça, est-ce qu'on peut faire des recettes ensemble? Je suis sûre qu'il allait me dire non. Il me dit, ok, mais tu vas bosser. Je t'apprends la cuisine, tu te débrouilles pour le pain, la pâtisserie. Vaste programme. J'essaye tous les pains, ça ne me plaît pas. Je fais des essais et j'adore. Et je tombe amoureuse de la pâte. Voilà ce qui se passe. En touchant la pâte, il y a une histoire d'amour qui s'est développée. Inattendue. Et je n'ai pas pu m'en passer. Tout en continuant mon boulot à temps plein, la pitié salpêtrière, tôt le matin, 5 heures, je me levais, je faisais des fournées. Le soir, pendant 2 ans, on a travaillé à 4 mains pour faire ce livre. Et il m'a appris la cuisine et, tu vois, et j'ai fait tous les essais. Et c'est là que c'est venu. Le livre est sorti, il a très bien marché chez Albin Michel. Le premier tirage qui t'a plus de 1000 exemplaires est parti en 3 mois. Et Albin nous a dit, est-ce que tu as quelque chose à changer? On fait un deuxième tirage. Je vérifie, je me rends compte que la gomme de goire, à l'époque, c'est ce que j'avais utilisé dans mon mix, le tout premier tirage, le mix pain et le mix pâtisserie, j'avais utilisé la gomme de goire. Elle a disparu du marché. Elle avait été raptée par le marché pétrolier pour extraire le gaz de schiste, alors que c'est quelque chose de bio, qui sert pour l'alimentation. Quoi qu'il en soit, elle avait atteint des prix phénoménaux, on ne pouvait plus s'en servir. Il a fallu que je trouve quelque chose pour le remplacer. Et c'est là que la véritable expérimentation a eu lieu. Parce que j'étais encore en vacances en août, je faisais plein d'hectares, j'avais un tout petit studio, je faisais tout dans mon petit studio, et partout des essais, je découvre le psyllium. Je suis amoureuse de ce produit qui est naturel, qui est bio. Et d'ailleurs, je fais partie des premières qui en a parlé en France. Et c'est là que c'est devenu une passion. Et je me retrouve sur le quai du métro, je dois aller au boulot, et dans ma tête, la phrase se passe. Les 8 heures de travail que je vais passer au boulot, c'est 8 heures où je ne fais pas de fournée. J'ai su que c'était terminé. Ma vie de psy, c'était fini. Il fallait que je fasse des fournées. Et j'ai continué à faire des fournées tout en bossant à temps plein. Et j'ai voulu passer pro. Et là, mon père me dit, passe ton CAP. CAP cuisine, je m'inscris. Je fais le CAP cuisine en candidat libre par la ville de Paris. Et en plus, je prépare le CAP pâtisserie. Et je fais mes essais. Je continue à faire mes essais. C'est là que sont les 4 années. J'ai continué à faire. Et après, quand j'ai eu le CAP, j'ai quitté tout de suite l'hôpital, le jour même, j'ai donné ma dispo, et j'ai continué à faire des essais. Pour arriver à faire du pain, un vrai pain, là, il y a la fougasse de mon père, et avoir une croûte qui craque et une mie aérée.
Trouver le bon pain a été le fruit d'une longue recherche. De tâtonnements en essais ratés, Clémentine Oliver, qui a ouvert depuis son atelier de boulangerie-pâtisserie dans le 19e arrondissement de Paris, a fini par trouver la recette parfaite. Les pains sans gluten de Clémentine ont la particularité d'être façonnés à la main, un par un. Clémentine lame elle-même chacun de ses pains, selon une technique qui lui a demandé 4 années de recherche pour parvenir à cuire ses pains sans gluten directement sur la sole de son four à pain, une sole en pierre naturelle, alors que tous les autres artisans qui font du sans gluten cuisent généralement leurs pains dans des moules. Cette technique très particulière prend beaucoup plus de temps que celle qui consiste à cuire des pains dans des moules, mais elle permet aussi d'obtenir le résultat tant apprécié, une croûte qui craque et une mie aérée, comme un vrai pain avec du gluten.
Ah ben c'était des essais, j'en ai fait des milliers, c'est tout écrire à la minute près, parce que d'abord j'ai une formation très scientifique avec, parce que j'étais psychologue clinicienne, mais j'ai fait un master de recherche, j'ai des habitudes d'écrire sur des cahiers de laboratoire. Et puis après, j'ai déposé à l'INPI. Vous voyez, je suis habituée à travailler de façon très minutieuse et à vérifier. Et en fin de compte, comment ça s'est fait ? Par empirisme pur, puisque personne n'avait travaillé sur le sujet.
Pour terminer, j'ai demandé à Clémentine Oliver de donner quelques conseils aux personnes qui, comme elle, souffrent de la maladie cœliaque.
Continuer à être éveillée, à bien regarder. Il faut faire attention à une chose, c'est le gluten caché. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi attention aux contaminations croisées. Moi, par exemple, mon pain, il n'a aucune trace de gluten. J'ai fait faire des analyses pour chacun de mes produits. Pour être garanti sans gluten, il faut être en dessous de 20 mg par kilo. Moi, mes produits sont en dessous du seuil traçable, qui est de 3 mg. C'est-à-dire qu'on ne détecte même pas 1 mg de gluten dans mes pains, parce que je suis terrible. Je fais vérifier mes fiches techniques. Chaque produit qui rentre dans mon labo, il n'y a pas un produit qui rentre avec gluten, même une trace. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Par exemple, quand on coupe du pain sur une planche à découper, il ne faut pas qu'il soit coupé sur la même planche où il y a eu du gluten. Ils sont obligés d'écrire, moi à l'époque pas du tout, mais ils sont obligés d'écrire en gros les allergènes et en gras. C'est une chance. Mais quand on est à l'AFDIAC, on nous donne une petite loupe. L'AFDIAC, c'est l'Association française des intolérants au gluten. On donne une petite loupe qu'on garde toujours sur soi. Et puis vite fait, on sait après les produits. Mais il faut toujours vérifier parce que des fois, il y a des gens qui nous changent des trucs pour gagner plus. Ils vont mettre un liant, il faut faire attention à ça. Il y en a dans certains médicaments, il faut se renseigner. Il faut rester éveillé. C'est beaucoup plus facile de manger sans gluten aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Et déjà, il vaut mieux cuisiner soi. Comme ça, on vérifie tous les aliments.
Et pour toutes les autres personnes sensibles au gluten sans forcément avoir la maladie cœliaque, Marie-Françoise Sanson conseille de privilégier certains pains.
On pourrait leur dire de plutôt aller vers des pains issus de farine sur meule de pierre avec... une préparation au levain, des fermentations longues, des produits qui sont transformés de façon, on va dire, plus douce, plus respectueuse de l'environnement. Beaucoup de nouveaux boulangers sont attentifs à ça. On est énormément questionnés par par ces nouveaux boulangers qui cherchent à travailler en circuit court avec des farines dont ils connaissent la provenance, des levains avec leur propre levain. Et la même chose chez des artisans pastiers qui vont utiliser des blés durs dont ils connaissent la provenance, cultivés en agriculteur biologique ou dans des conditions de faible intrant, des pâtes séchées à basse température.
Si le sujet de l'inconfort digestif vous intéresse, n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'épisode 156 de Bouffon à propos du syndrome de l'intestin irritable. Merci à Clémentine Oliver et à Marie-Françoise Sanson de m'avoir donné de leur temps pour parler de gluten. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux.